L'âge bête sur RCN.
Bonjour, on se retrouve après 2 mois d'absence. Il y a eu les vacances scolaires et quelques minutes avant, on a eu un petit problème technique. Mais normalement, tout va bien se passer là maintenant. Nouvelle émission avec de nouveaux chroniqueurs. Bonjour à vous.
Salut.
Nouveaux chroniqueurs qui sont nouveaux, ils sont pas très à l'aise. Respectez-les, enfin, soyez gentils avec eux. Pour les chroniques d'aujourd'hui, nous avons littérature avec Martin.
Oui, c'est ça, je vais vous présenter un livre que j'ai lu pour mon bac de français qui s'appelle 17 ans.
Tu en parleras en début de l'émission. Nous avons Lucie qui nous parle des expressions françaises.
Alors effectivement, je vais vous présenter 3 expressions françaises assez connues.
D'accord. Et Antonin, lui, nous reprend le quiz général.
C'est ça, avec 6 questions de tous les thèmes.
Oui, le quiz général que je faisais l'année dernière. Et nous avons Noah qui nous parle de sport aujourd'hui.
Aujourd'hui, je vais vous présenter l'aviron.
Intéressant. Martin, dis-nous en plus sur ton livre.
Alors voilà, aujourd'hui pour mon sujet de littérature, j'ai choisi le livre 17 ans. Je l'ai choisi pour mon bac de français, du coup l'année dernière, parce que là je suis en terminale cette année. Et je vais vous dire justement si c'est judicieux de le choisir, ou si au contraire il faut le fuir et que ce n'est pas un bon choix et que sélectionner
oui,
un autre livre.
Très bien, nous.
Donc j'ai choisi le roman de Colombe Schneck qui s'appelle 17 ans. Il retrace la vie d'une adolescente qui passe le bac en enceinte dans les années 80, ça se passe en 1984, et je l'ai choisi car c'est un roman bouleversant qui traite de sujets sensibles et délicats, comme l'avortement par exemple, et j'ai remarqué aussi que dans mon entourage, peu de personnes l'ont pris ce livre, donc je me suis dit que pourquoi pas, j'allais le lire et le présenter pour mon bac de français. Donc en effet, dans ce roman, nous rencontrons Colombe, le seul personnage du livre d'ailleurs, qui nous raconte sa vie insouciante de jeune fille normale, dans un milieu privilégié, mais malheureusement, par l'oubli de sa pilule contraceptive, elle va tomber enceinte de son amant. À 1 mois du bac, elle est si jeune, elle décide d'avorter. Tout se passe normalement, elle nous dit que personne ne lui fait de reproches, ni ses parents, ni le personnel de la clinique. Mais Colombe se sent bête d'avoir été négligente et elle se sent surtout trahie par son corps, qui est enceinte à un si jeune âge. Donc sans regretter sa décision, elle décrit de manière claire la relation avec sa mère, mal à l'aise, et aussi avec son entourage, avec son amant, et elle nous parle aussi de cet enfant qui aurait 32 ans aujourd'hui. Donc passons maintenant au point positif de ce roman et de pourquoi vous devez le choisir pour votre lecture personnelle du bac. Donc premièrement, je trouve que le livre est assez court par rapport à ce qu'on étudie dans l'année, il ne fait même pas une centaine de pages, donc ce qui vous laisse du temps de le comprendre, de le relire même si nécessaire, et de l'étudier en profondeur. De plus, je trouve qu'il permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, car même si on est un homme, nous pouvons nous identifier à Colombe qui vit une période de sa vie difficile, et ça permet aussi de développer nos sentiments face à l'auteur. Et passons maintenant au point négatif de cette lecture. Je trouve ce qui fait de sa plus grande force est en réalité sa plus grande faiblesse. En effet, selon moi, le livre il est trop court, même trop court pour un sujet aussi important et que l'avortement justement. Et l'unique personnage qui est Colombe qui nous raconte sa vie, je trouve qu'il n'exploite pas toutes les possibilités de cette histoire car on aurait bien voulu avoir le point de vue de sa mère ou le point de vue de son amant qui vit aussi une situation difficile. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi aussi. Et qu'est-ce que tu en as ressenti de ce livre à la fin de ta lecture ?
Ça m'a vraiment troublée car j'ai vraiment bien aimé et c'est des sujets qu'on n'aborde pas souvent en littérature.
C'est vrai.
Et je trouve que l'autrice qui est Colombe Schneck, elle a vraiment écrit ça avec d'un point de vue naturel, comme si elle s'adressait à une amie en fait. Et je trouve qu'on a vraiment que l'autrice est vraiment sincère dans ce qu'elle raconte et ça fait du bien.
Merci d'avoir partagé.
Pas de souci.
Nous avons maintenant Lucie qui nous parle des expressions françaises.
Alors tout à fait. Pour commencer, est-ce que vous connaissez l'expression à la queue leu-leu ?
Oui,
évidemment.
Ça, on la connaît.
Donc de nos jours, elle est utilisée quand on parle des enfants qui marchent en file indienne. Mais en fait, elle date du 11e siècle, cette expression.
Ah, c'est ancien.
C'est très loin, ça. C'est oui, plus oui. loin que...
Donc en fait, le mot leu, c'est un dérivé du latin lupus ou loup en français. Donc la peur des loups, elle était très répandue à cette époque. Ils étaient craints comme on craint aujourd'hui.
Encore les loups d'ailleurs.
Voilà, mais beaucoup plus qu'aujourd'hui quand même. Hein. Donc d'après ce qu'on sait, en fait, ils se déplaçaient les uns derrière les autres. Donc c'est pour ça qu'on dit à la queue leu-leu. Mais avant on disait alors qu'à la queue d'un leu se trouvait un autre leu. Un peu compliqué à dire.
Ouais.
Donc l'expression elle s'est ensuite simplifiée avec le temps. On a dit à la queue du leu le leu.
Waouh.
Toujours plus compliqué. Et maintenant, on dit simplement à la queue le leu. C'est beaucoup plus simple qu'à la base.
Et donc, ça vient de là.
En fait, voilà. Les leus, c'est les loups. Et du coup, c'est comme si nous, on était des loups.
Voilà.
C'est ça.
Tout à fait.
D'accord.
Donc, vous avez déjà sûrement entendu parler de l'expression avoir un nom à coucher dehors.
Oui, moi, j'ai déjà entendu.
Moi, non.
Non, non plus.
Vous avez jamais entendu ?
Non,
jamais.
Alors, est-ce que déjà, vous savez ce qu'elle veut dire ?
C'est quand c'est un nom difficile ou avec beaucoup de lettres. Et...
Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on l'utilise pour dire que quelqu'un a un nom compliqué à prononcer. Mais on ne va pas vous refuser l'accès à un hôtel ou à quelque chose pour ça. Mais au Moyen-Âge, si. Vous auriez pu dormir dehors à cause de votre nom.
Si on va dans un hôtel ?
C'était plutôt des auberges à l'époque.
Oui.
Mais vous auriez pu dormir dehors si vous n'aviez pas un nom avec une particule, un nom noble ou un nom très français. L'aubergiste pouvait vous dire de dormir dehors parce qu'il allait privilégier les personnes avec un nom plus élaboré, plus voilà. Après, avec un peu de chance, vous pouviez dormir dans l'écurie, même si c'était pas forcément très confortable.
Les pauvres.
C'est moins confortable que l'auberge.
Voilà.
Mais au moins, il
pouvait avoir un toit sur la tête.
Oui, mais il y a moins de confort.
Voilà. Pour terminer, est-ce que être sur le qui-vive, ça vous dit quelque chose?
Non, moi je connais pas.
C'est pas quand t'es pauvre ou...
Non. Donc en fait, c'est quand on est sur ses gardes.
Bien tenté, Antonin.
Merci.
Quand on est sur ses gardes, quand on est attentif à ce qui se passe autour de nous. Mais cette expression, déjà, elle est apparue à la fin du 14e et au début du 15e siècle. Donc elle est quand même un peu ancienne. Pas autant que les celles d'avant, mais elle est quand même assez ancienne. Donc à cette période, on l'utilisait, mais on la disait en latin. Donc, au qui vivat. Donc, c'était les sentinelles, donc les gardes, qui l'utilisaient quand elles entendaient du bruit autour d'elles ou si quelqu'un s'approchait pour demander l'identité, tout simplement. C'est au début du XVIIe siècle qu'elle s'est transformée en être sur le qui-vive ou en se tenir sur le qui-vive. On utilise plus être sur le qui-vive que se tenir sur le qui-vive maintenant. Voilà.
Merci.
On se retrouve après pour le coup général par Antonin. On se retrouve donc après le son Madonna Material Girl jusque 14h30.
Some boys taste
L'âge bête sur RCN.
Antonin, quiz général, à toi les questions.
Voilà, alors je vous ai préparé donc des questions voilà, dans tous les styles, plutôt réalisables, hein. J'ai fait en fonction de notre âge. Donc pour commencer, plutôt géographie, quelle ville française est surnommée la ville rose ?
Tu commences dur là.
Je ne sais pas du tout.
Je crois que c'est Toulouse.
C'est ça. Et t'as une idée de pourquoi ?
Non, du tout. Trop fort.
En fait, non, moi je sais ouais. Que
peut-être parce qu'il y a les fleurs.
Ah, c'est peut-être la ville la plus fleurie de France.
J'ai un indice. Enfin, quand c'était rose, je sais que pendant l'été, il y a un festival qui s'appelle le Festival Rose.
À Toulouse ?
Oui, qui a même été créé par Bigflo et Oli.
Oh, je savais pas.
Il y a plusieurs artistes qui sont conviés et c'est plutôt.
Et ils invitent. Ils sont que eux deux ou ils invitent aussi des autres artistes ?
Non, il y a d'autres artistes aussi.
Et c'est tous les ans à Toulouse ?
Oui.
Bah c'est un
mois
d'août.
Je connaissais pas non plus.
Fin août.
Ouais, en fait, ça doit être lié justement au surnom de la ville, mais c'est pas oui. Pour cette raison. Donc la raison, c'est parce que cette ville donc fait référence à la couleur de leurs briques. Les briques, voilà, quand tu vas dans le nord de la France, voilà, Bretagne, Normandie, les briques, tu vois beaucoup de petites briques rouges. Toulouse, elles sont roses. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. C'est très particulier.
Bah merci, bah,
je savais pas.
Voilà, donc maintenant, voilà, question plutôt maintenant pâtisserie. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu parler de la forêt noire.
Oui.
Oui, c'est un gâteau.
C'est un gâteau, du coup.
Voilà, donc c'est un dessert. Et bah donc, quel fruit on retrouve dedans, sachant qu'il n'y en a qu'un seul ?
La cerise.
Oh, j'allais dire la poire. Pardon.
La poire.
Continue.
Pourquoi la poire ?
Je sais pas, mais il y a plein de gâteaux et les noms, ils sont super difficiles.
Ok. Bah donc, question suivante. Est-ce que une pseudo-céréale qui est noire, ça vous dit quelque chose ?
Les chocapics ?
Non.
Ça ne me dit rien.
Les quoi ?
En fait, une pseudo-céréale. Mais non.
Ah,
c'est une, okay. Une céréale, pas les céréales que tu manges au petit déjeuner,
oui,
même si ça peut.
Ah, bah j'ai dit les chocapics et tu me dis rien.
Et en fait, on le surnomme le blé noir.
Ah, d'accord. Ça, et ça se cultive où ?
Donc, c'est quoi comme céréale ? Pseudo-céréale.
De l'orge ?
Donc, c'est du blé noir ou c'est de l'orge ?
De quoi ?
D'accord, donc c'est
on
pas
va
ça.
Rester sur les chocapics, je pense.
Donc, quel pseudo céréale est surnommé le blé noir ?
Du coup, je sais pas.
Bah, je sais pas non plus.
J'ai pas vu des petites graines noires ou le sarrasin. Forcément, vous connaissez.
Ah le oui, il y a du pain. Il y a du pain.
Bah voilà, en fait, c'est
d'ailleurs,
tout
c'est très
pour
bon
ça.
Grave, moi aussi j'aime bien.
Moi, je préfère les chocapics.
Je suis avec
hein.
Toi aussi.
Non, c'est vrai, dans le pain, c'est vraiment bon. Voilà, donc je vais vous demander maintenant les quatre noms des Dalton.
Alors, il y a Joe c'est le plus petit parce que je m'en rappelle parce que...
Voilà.
Bon,
voilà.
Je suis un peu petit mais c'est pas grave.
Les autres,
mais,
ça vous dirait...
Pour les autres...
Il y en a un qui commence en W.
Le grand, c'est pas le plus bête ou je sais pas.
C'est ça,
si, c'est ça.
Il est totalement crétin et il pense qu'à manger.
C'est Wilson ?
Non. Pourtant, il reste maigre. Wilson, non.
Il y a Alfred ?
Toujours pas.
Toujours pas.
Bon. Le premier commence par la lettre
j'aurais essayé.
A. Le dernier, je veux dire, voilà, il commence par la lettre A.
Ah.
Mais...
Je pense qu'on va faire un pendu.
Ouais, un pendu.
Non.
Comme au cours.
Grave.
Bon, alors du coup, le plus petit, c'est ça, c'est Joe. Ensuite, il y a Jack et William.
Jack et William.
Ça vous dit
Jack,
rien vraiment
non, non,
ça
pas
fait
trop.
Super longtemps que.
Mais vraiment, mais je regardais ça quand j'étais tout petit. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Je m'en souviens plus du tout.
Mais après, oui, je crois que les BD continuent toujours.
D'ailleurs, tout le monde regardait les Dalton ?
Oui, oui.
Moi, j'ai regardé quelques épisodes.
Oui, ça a passé quelques
alors,
fois à la télé.
Pas le truc que je regardais le plus, mais ouais.
Moi non plus.
Et donc, le dernier, le plus bête, le plus gourmand, Avril.
Ah, voilà, ah, c'est ouais. Avril.
C'est ça. Allez, une petite dernière question parlant d'histoire. Sur quelle plage les alliés américains ont-ils débarqué en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale ?
C'est la Normandie.
Tu sais ça,
oui,
Elsa ?
Ça, oui.
Ouais,
c'est... Voilà. Elle est super connue, la plage. Et puis, il y a des expositions aussi.
Non, ça, c'est autre
vous
chose.
Vous y êtes déjà allé ?
Non.
Bah, sur les lieux. Une fois, il me semble, mais je m'en souviens plus du tout.
Oh, la honte.
J'ai marché, enfin, j'y étais sur la plage, mais au coin, enfin, dans les alentours, il y a des petites expositions. C'est très sympa.
Oh.
Oui. Je sais plus du tout.
C'est fini pour toi ?
C'est fini.
C'était très intéressant. Et puis, les cultures générales, c'est super amusant aussi autour de nous.
Ouais, on a appris plein de choses. Ouais.
C'est vrai.
C'est toujours sympa.
Toujours sympa. On se retrouve après le son Yaozobi de Seventeen.
L'âge bête sur RCN.
Nous sommes sur RCN Radio et nous retrouvons avec la chronique sport de Noah.
Oui, donc est-ce que vous connaissez déjà l'aviron ?
Oui, on en a tous fait, je pense.
J'avais déjà fait des essais.
T'as jamais fait ?
J'en ai jamais fait.
Lucie, t'as jamais fait d'aviron ? Jamais. C'est super.
J'avais fait des essais à Pont-à-Mousson, d'ailleurs, mais...
Oui, bah, y a un club, d'ailleurs, à Pont-à-Mousson.
Mais en ce moment, on n'arrête pas de les voir en dessous des ponts et tout, c'est sympa. Hein. Oui.
Oui. Moi, j'ai trop peur qu'ils coulent à chaque fois. Je sais pas comment ils font.
Donc, l'aviron, c'est un sport qui fait partie de la famille donc des sports nautiques. Donc, c'est devenu un sport donc depuis la création des Jeux Olympiques modernes, qui était en 1896. Donc, sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin, je sais pas si vous connaissez.
Oui.
On l'a étudié,
si
il me semble.
Ça me dit quelque chose.
Je sais pas.
Ça me dit quelque chose.
Si, je l'ai entendu quelque chose quelque part.
D'accord. Donc, ce sport consiste à propulser donc une forme étroite et allongée de traînière à l'aide donc de rames qu'on appelle aussi des avirons. Donc c'est là que vient le nom.
Oui, aviron, je crois que c'est pas le nom du bateau, c'est le nom des rames.
Donc mais c'est comme donc on, comment on les appelle comment les pratiquants de l'aviron les appellent. Donc il y a est-ce que vous saviez qu'il y a plusieurs catégories d'avirons?
Oui, il y en a pour les débutants qui coulent pas. Ça, c'est les meilleurs, selon moi.
Oui.
Et après, il y en a ceux pour la course et la vitesse, il me semble, qui c'est eux bien, peuvent. Après,
c'est pas la même forme.
Il y a aussi. Non, c'est pas.
Non, bateaux,
voilà,
non
c'est ouais. Ça. Non, là, je disais dans le style. Par exemple, on a donc l'aviron de rivière, donc, oui. Comme ici à Pont-à-Mousson sur la Moselle. Mais aussi, on a l'aviron de mer qui se pratique.
C'est pas les mêmes.
Non,
c'est pas la même forme.
C'est pas la même forme.
Ah, d'accord.
Donc, la première course, elle a eu lieu à la moitié du XVIIIe siècle. Et elle a été faite donc, sur la Stamise à Londres, donc, où il y a encore des compétitions qui opposent deux universités anglaises. Donc, l'aviron, il arrive en France en 1834. Il y a donc différents noms de bateaux. À l'aviron, donc par exemple, on peut ramer avec une pelle, donc ça s'appelle la pointe, et avec deux pelles, donc ça s'appelle le couple. Donc il y a. Est-ce que vous savez jusqu'à. On peut ramer à combien dans un bateau?
4.
Une dizaine, hein. Non, ça va bien
8.
Plus. Hein.
Jusqu'à 8.
Ah ouais.
Et donc, on peut ramer soit en 8 avec deux pelles, soit en 8 avec une pelle. On peut aussi en pratiquer, donc on peut pratiquer l'aviron toute l'année. Donc on peut en pratiquer sur l'eau, mais aussi sur des machines, les ergomètres.
Ah oui,
j'ai vu pour s'entraîner quand il fait
rameurs, oui, c'est ça.
Quand il fait trop froid ou quand il pleut, je crois.
C'est pour s'entraîner, je pense, avant ouais. Le départ.
Mais en compétition, il y a aussi des compétitions d'ergomètres, des championnats de France. Donc comme par exemple au lycée Marquette, la section, on essaye d'aller se qualifier au championnat de France. Donc en indoor, donc c'est l'intérieur. Et en outdoor, sur l'eau.
La compétition, elle serait quand?
Je ne sais pas les dates exactement.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce que plus on a de rames, plus on va vite? Ou ça ne marche pas comme ça?
Non, c'est pas comme ça.
Non, ça ne marche pas
plus,
comme ça.
Ouais, parce qu'après, il y a le poids.
C'est ça, le poids des rameurs, la propulsion, la force qu'on met dans les pelles.
Ok.
Comme je l'ai dit, on a une section sportive en partenariat donc avec la Société Nautique de Pont-à-Mousson. Elle se déroule le mardi et le jeudi soir. Après les cours, on a un emploi du temps aménagé. On a deux entraîneurs donc qui ont tous les deux participé aux Jeux Olympiques. Donc Hernando Chamorro, qui est argentin, qui a quitté exprès l'Argentine pour rejoindre le club de Pont-à-Mousson.
C'est vrai?
C'est oui, complètement dingue.
C'est grave.
Super.
Et Jean-Raymond Pelletier, donc c'est lui, il est médaillé d'argent en 4 de couple aux Jeux Olympiques. Et il est aussi, je crois, président de la Ligue Grand Est d'Aviron.
C'est très intéressant, ils sont
d'accord. On a de la chance, hein.
Ils ont pu y participer?
Je crois y participer. Jean-Raymond Pelletier, oui. Hernando Chamorro, non. Mais voilà.
Ils n'ont pas pu être.
Ils n'ont pas été en. Pas plus long.
Bon. Merci de nous avoir écoutés. C'était la fin. C'était notre première émission. Tous ensemble avec de nouveaux chroniqueurs, il faut comprendre que c'était pas forcément parfait. On a fait ce qu'on a pu. Et au revoir. Et on se retrouvera le mercredi prochain avec Martin qui sera animateur.
C'est ça, on inverse les rôles.
Au revoir.
Salut tout le monde.
Au revoir. Salut.